simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans les Grégants. La semaine dernière, nous évoquions avec Denis le cas de Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis près de 40 ans dans les geôles françaises et libérable normalement, selon les conditions de la justice bourgeoise, depuis 1999. Pour bien comprendre le cas de Georges Ibrahim, il faut se replonger dans les années 80, avec bien évidemment l'invasion du Liban par les troupes de l'État israélien, mais aussi tous les jeux et les enjeux des différentes capitales européennes et leurs politiques et leurs influences politiques à l'intérieur des conflits et des enjeux géopolitiques du Proche et du Moyen-Orient. Pour cela, nous proposons à l'écoute la diffusion d'un documentaire qui avait été réalisé en 2022 par une journaliste de Radio France Internationale, diffusée dans l'émission La Marche du Monde. Espérons que cette écoute vous permettra de saisir un peu plus les soubassements politiques de l'affaire de Georges, et bien évidemment de vous intéresser à son cas, et pourquoi pas de participer à la campagne qui commence au début du mois d'octobre pour réclamer enfin la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique en Europe. À bientôt et bonne écoute.
Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, est le plus vieux prisonnier politique d'Europe incarcéré en France. Il a été condamné en 1987 pour complicité d'assassinat de deux diplomates américains et israéliens. Mais Georges Ibrahim Abdallah a purgé sa peine. Alors pourquoi est-il encore en prison? Quel est son combat et que représente Abdallah dans l'histoire de la lutte des Palestiniens? Autant de questions délicates posées par l'incarcération de Georges Abdallah dans un pays, la France, où il est libérable depuis 1999. Après 8 demandes de libération conditionnelle, dont certaines ont été acceptées par le tribunal d'application des peines en 2013, le gouvernement français maintient son refus de signer un arrêté d'expulsion qui conditionne sa libération et son retour vers le Liban. Georges Ibrahim Abdallah, une perpétuité politique. C'est un documentaire de La Marche du Monde, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Une enquête et aussi un récit, signé Clémentine Métainier.
« 16 janvier 2022. Cher Georges Abdallah, le devoir d'informer d'abord, l'audace de la rencontre ensuite et mon histoire personnelle me pousse à vous écrire. Je suis une journaliste indépendante française. Mon micro m'a menée presque aux quatre coins du monde, principalement sur le continent africain, à récolter des voix, des bribes de vie, des bouts du quotidien, pour faire entendre les luttes, les voix inaudibles, les invisibles de notre monde. Et puis j'ai rencontré la Palestine, une fresque de douleur, d'exil et de catastrophe, mais teintée d'entraide, d'une grande générosité, d'humour, de rage de vivre. La Palestine a pris vie en moi lors de ma rencontre avec Mathieu, l'homme qui partage ma vie, qui de ses 20 à 28 ans s'est rendu régulièrement dans le camp d'Aïn el-Helouï, au Liban, pour documenter, en photo, le quotidien des Palestiniens. Il m'a toujours beaucoup parlé de vous. C'est peut-être à ce moment-là que l'envie est née de vouloir réaliser un documentaire radio sur vous et raconter votre détention, qui dure depuis bientôt 40 ans. Je vous écris pour vous demander votre accord pour réaliser un documentaire sonore pour l'émission La Marche du Monde sur les ondes de Radio France Internationale. Accepteriez-vous que l'on se rencontre ? Signé, Clémentine Métainier.
Très chère Clémentine, quelques petites lignes au petit matin et plein de pensées à vous et à Mathieu, vous espérant en très bonne santé et en vous souhaitant le meilleur pour les jours à venir. J'ai lu avec beaucoup d'attention votre lettre du 16 janvier. Comme vous savez, sur les chemins de la lutte, les parcours des femmes et des hommes de divers horizons se croisent à un moment ou un autre et nourrissent ce grand fleuve qui permet à l'humanité de naviguer vers sa libération. Bien entendu, par ces temps de crise, l'échange, les idées, la réflexion ne peut que favoriser les parcours des luttes en vue d'un monde meilleur dans la diversité de leurs expressions. Très cher, votre visite me fera énormément plaisir. Seulement, pour avoir un permis de visite, il y a toute une démarche administrative à faire. Très cher, je vous prie de ne pas me tenir rigueur d'avoir mis aussi longtemps pour répondre à votre courrier. Au plaisir de vous rencontrer bientôt et je vous embrasse bien fort, vous et Mathieu. Georges.
L'affaire Georges Abdallah, comme on dit souvent...
Patrick Bobulesco, militant et fondateur de la librairie parisienne Le Point du Jour en 1983, il est l'un des tout premiers soutiens de Georges Abdallah.
Georges Abdallah est loin d'être innocent, c'est un militant qui a assumé la responsabilité des actes que son organisation, la fraction armée révolutionnaire libanaise, a accompli, même si personne n'a pu prouver que lui-même avait accompli ces actes. Mais donc, on est dans une époque où Georges Ibrahim Abdallah apparaît. Pourquoi ? Parce que il est libanais, il est né au nord du Liban en 52, dans une famille chrétienne d'ailleurs. Il a connu la guerre civile libanaise, c'est pendant ces années-là qu'il s'est politisé. De profession, il était instituteur, il a été instituteur dans la BKA. Il s'est engagé dans ces années de guerre civile. Ensuite, le Liban se situe dans le contexte du Moyen-Orient et donc est un enjeu essentiel dans la politique régionale et notamment vis-à-vis de son voisin Israël, qui en 1978 envahit le sud du pays. À ce moment-là, la résistance progressiste libanaise lutte de façon armée contre cette invasion. Georges Ibrahim Abdallah est lui-même blessé pendant ces combats. Cette invasion va être renouvelée en 1982, où là, l'armée israélienne va aller jusqu'à Beyrouth, produisant vraiment des milliers de morts, avec aussi des massacres dans les camps palestiniens. Georges Abdallah était militant du Front populaire pour la libération de la Palestine, qui était un des groupes les plus importants de la résistance palestinienne. C'est dans ce cadre-là qu'il a combattu aux côtés des Palestiniens et avec ses camarades libanais. Mais en 1982, il participe à la création donc d'une structure qui s'appelle la Fraction armée révolutionnaire libanaise, dont le but, en fait, est de frapper l'ennemi partout où il se trouve. Alors l'ennemi, c'est non seulement Israël, mais c'est aussi les États-Unis qui sont le soutien le plus important d'Israël. Et donc, la FARL, ou les FARL, comme on dit, décide en particulier de porter la guerre à l'extérieur et donc vont procéder en France à l'exécution de deux membres importants des services secrets américains et israéliens. Suite à l'enquête de la police française, Georges Abdallah est arrêté finalement en 1984 à Lyon. On ne lui reproche pas grand-chose, on lui reproche juste de posséder des papiers qui seraient des faux. En fait, il a un vrai passeport fourni par l'Algérie. Et donc, a priori, son cas peut se régler avec un procès en correctionnel et quelques mois de prison. Le procès va effectivement avoir lieu en 86 et il va être condamné à 4 ans de prison.
Lors de la première condamnation de Georges Ibrahim Abdallah en 1986, la justice française ne fait pas la preuve de son implication directe dans l'assassinat des deux membres des services secrets israéliens et américains. Mais la vague des attentats parisiens s'amplifie.
Toutes les polices de France sont à la recherche ce matin de deux Iraniens. Déjà, les policiers étaient pratiquement sûrs, à 9 chances sur 10, d'une piste originaire du Proche-Orient dans la série d'attentats dont Paris a été la cible depuis lundi dernier, Christian Bex.
France Inter, 9 février 1986.
Cette nouvelle piste iranienne vient donc s'ajouter à la piste libanaise, mais tout converge vers un même point, le Proche-Orient. On peut avancer une explication à cette vague d'attentats qui vise particulièrement la France. Le gouvernement français n'aurait pas respecté un accord avec les terroristes. Pour la première fois, l'avocat des fractions armées révolutionnaires libanaises parle. C'est une exclusivité France Inter. Notre reporter Pierre Barretti a rencontré cet avocat, Jean-Paul Mazurier. Vous allez l'entendre, il n'est pas très disert. Mais ce qu'il dit ou ce qu'il laisse entendre est quand même très intéressant. C'est tout de même en quelque sorte une confirmation. Sidney Perrol, le directeur du Centre culturel français à Tripoli, qui était retenu en otage depuis plusieurs mois, a été libéré récemment par ses ravisseurs. Il devait être échangé contre Georges Ibrahim Abdallah, un terroriste détenu à Fleury-Mérogis. Mais malgré la libération de Perrol, Ibrahim Abdallah est toujours en prison. Je vous propose donc d'écouter maintenant ce que dit maître Jean-Paul Mazurier, l'avocat des fractions armées révolutionnaires libanaises, à Pierre Barretti.
Il est possible que la campagne d'attentat ait un but beaucoup plus large.
C'est-à-dire, vous pensez qu'on vise la France ?
Je vous répondrai par une formule que l'on comprendra ou que l'on ne comprendra pas, mais sur laquelle je ne m'expliquerai pas. Je dirai qu'Israël est une colonie européenne installée en territoire arabe.
Avez-vous vu votre client Georges Ibrahim Abdallah récemment ?
Oui, je l'ai vu.
Avez-vous parlé des attentats avec lui ?
J'ai parlé des attentats avec lui comme j'en aurais parlé avec n'importe quelle personne, car c'est une préoccupation personnelle.
Que vous a-t-il dit ?
Je ne peux pas vous répondre.
Pensez-vous que la campagne d'attentat va continuer ?
Il y a une progression dans la gravité et dans la régularité des attentats. Pour l'instant, ces attentats n'ont fait que des blessés, ce que je déplore, bien évidemment. Cela peut être considéré comme une simple mesure d'avertissement et que l'on peut craindre, malheureusement, des attentats beaucoup plus meurtriers, qui demanderaient d'ailleurs une technologie beaucoup moins grande. Le gouvernement français avait pris des engagements et avait donné sa promesse que mon client Abdallah, Georges Ibrahim, serait libéré en échange de Gilles Perrol en mars dernier. Il n'a pas pu tenir sa promesse, car comme chacun sait, la DST a découvert, le lendemain de la libération de Gilles Perrol, un stock d'armes. Ce stock d'armes faisait peser sur mon client une inculpation beaucoup plus lourde. Et il lui était désormais impossible d'effectuer l'échange.
Donc en conclusion, est-ce qu'on doit s'attendre au pire dans les prochains jours ou pas ?
Je crois qu'effectivement, on peut s'attendre à des attentats beaucoup plus graves.
Voilà donc une explication de Jean-Paul Mazurier, l'avocat des fractions armées révolutionnaires libanaises, une explication à cette guerre que les terroristes semblent avoir déclarée à la France.
Alors tout ça se passe dans un contexte très particulier parce que
Patrick Bobulesco.
En 85-86, des attentats aveugles ont frappé Paris et la France, occasionnant de très nombreux morts. Et ceux qui revendiquent ces attentats, effectivement, mettent en avant dans leur demande la libération d'un certain nombre de détenus en France, dont Georges Abdallah. Donc certains pensent que Georges Abdallah est en lien avec ces attentats, ce qui est tout à fait contraire à la philosophie, à l'engagement politique des FARL. Il ne s'agit pas du tout de terrorisme aveugle qui viserait indistinctement des gens dans une rue ou dans un magasin ou dans une galerie marchande, mais il s'agit effectivement d'attentats ciblés visant des personnes considérées comme des ennemis de leur cause. Cette revendication fait que le deuxième procès de Georges Abdallah, qui se déroule donc fin février, début mars 87, en fin de compte, Georges Abdallah va être condamné à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat. Donc on n'a pas pu prouver qu'il avait participé effectivement à ces meurtres, avec ce qu'on appelle une peine de sûreté de 15 ans, donc qui courait jusqu'en 99, puisqu'il avait été arrêté en 84, qui donc ne lui permettait pas d'être libéré avant 1999.
Donc là, c'est bon, on a passé le portique de sécurité pour l'entrée professionnelle. On arrive devant les grandes marches de la cour d'appel de Paris. C'est l'entrée principale.
On se met à l'abri sur le palais avec la grande vue,
la porte principale. La préfecture de police de Paris.
Comment on vous présente, Antoine Mégy ?
Je suis enseignant-chercheur à l'université de Rouen. Ma spécialité est la science politique.
Spécialiste de la justice antiterroriste, on peut dire ça ou c'est vraiment trop simplifié ?
On peut dire ça, c'est plus simple à comprendre déjà. Et donc justement, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de venir dans un lieu de justice, et ce lieu de justice, c'est la cour d'appel de Paris, donc. C'est ici que, à partir de 1986, il y a ce que l'on va appeler les procès terroristes qui commencent à s'enchaîner, et notamment le procès de Georges Ibrahim Abdallah en 1987, à partir de janvier 1987, dans ces murs.
On y va ?
On y va. Ça, c'est les portes en verre qui nous permettent de rentrer. Et donc nous, on va devoir aller de l'autre côté, prendre une autre galerie pour arriver jusqu'à la salle Voltaire, qui est tout au bout, au niveau de la galerie Harlay. Bonjour, ça va ?
Bonjour.
Alors là, on va monter les marches, ces grandes marches en marbre qui amènent à la cour d'assises, à la salle Voltaire où a été jugé Georges Ibrahim Abdallah en 87. C'est la plus grande salle de la cour d'appel jusqu'en juin 2021 où une nouvelle salle a été créée, celle du procès V13 avec 500 places. Mais cette salle, elle porte en elle beaucoup, beaucoup d'histoires et notamment les procès des années 80. Et en 1987, pour Georges Ibrahim Abdallah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi qui passe en 1985 poussé par Robert Badinter sur cette idée qu'il faut construire des images de la justice pour l'histoire. Mais on ne parle pas des procès du terrorisme à l'époque. Ces procès du terrorisme, c'est des procès qui, certes, sont très médiatisés, comme celui de Georges Ibrahim Abdallah, mais aussi parfois des leaders d'action directe. Mais les procès historiques en 1985-1987, c'est les procès de Klaus Barbie, c'est les procès de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'archives vidéo pour Georges Ibrahim Abdallah à l'époque.
Effectivement. Alors on a par contre une couverture médiatique de télé qui est quand même assez présente. On a aussi des photos. Et ça c'est assez paradoxal, c'est qu'on a presque plus de photos du procès de Georges Ibrahim Abdallah que de photos des procès d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les photographes ne sont pas admis dans les salles. À l'époque, il y avait la possibilité pour les photographes de rentrer avant le début du procès et de photographier les accusés.
Donc justement, pour se remettre un peu dans le contexte, on est... Alors vous avez dit janvier 87, il me semble que c'est le 23 février 87 que commence son procès. Et là, il est poursuivi pour complicité dans l'assassinat de Charles Robert Ray, qui était un attaché militaire adjoint à l'ambassade des États-Unis, et Yakov Barsimantov, qui était secrétaire adjoint à l'ambassade d'Israël à Paris. Nous sommes dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui fait que vous, à un moment donné, vous vous êtes intéressé à ce procès ?
Ce procès, il est très couvert à l'époque. Et en même temps, il a lieu dans un moment extrêmement intéressant pour un politiste, donc qui s'intéresse à la manière dont la justice antiterroriste s'est progressivement transformée, notamment au cours des années 80, après la fin de ce qu'on a appelé la cour de sûreté de l'État, l'arrivée de l'alternance politique avec François Mitterrand comme président de la République et puis Robert Badinter, et dans cette volonté d'inscrire une politique judiciaire autour de l'abrogation de la peine de mort, de la fin des crimes politiques, eh bien, on a des transformations qui se créent. On a aussi un contexte international très important, avec des revendications en pleine guerre froide, mais aussi un conflit au Proche et au Moyen-Orient qui s'exporte dans les différents pays européens. Donc, effectivement, on est dans un moment d'intense revendication, d'utilisation d'une violence par des États, par des groupes. Et de ce point de vue-là, quand on regarde l'histoire de la justice antiterroriste, on voit aussi qu'on a des lois qui sont adoptées, notamment en 86.
Vous parlez d'un procès frontière concernant le procès de Georges Abdallah en 1987, parce qu'effectivement, il est le premier procès à se tenir dans le cadre de ce tournant très important de l'organisation du pouvoir pénal. C'est une cour d'assises qui est composée de magistrats professionnels. Grande nouveauté, il n'y a pas de jury, enfin juré populaire.
Effectivement, c'est ce qui est intégré dans la loi de septembre 1986. Et de ce point de vue-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le dossier des attaques des FARL, avant même cette cour d'assises spécialement composée, est déjà intégré dans ce nouveau dispositif, puisque c'est autour de ces attaques revendiquées par les FARL que l'on va avoir une spécialisation des juges de l'instruction. C'est ensuite autour du jugement de ce dossier que va se créer cette cour d'assises spécialement composée. Très concrètement, cette cour d'assises spécialement composée ne va absolument pas suivre le réquisitoire qui sera prononcé par le procureur général. Lui demande une peine inférieure à 10 ans. Par contre, la cour d'assises spécialement composée, elle, va prononcer une peine de perpétuité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où cette peine est requise par l'avocat général, lui-même explique qu'il fait cette demande presque à contre-cœur, et on a tout un débat médiatique et politique autour de ce que signifie ce réquisitoire, considérant que, à l'époque, il est de notoriété publique et même largement divulgué que la France est en pleine discussion diplomatique avec des émissaires entre la France et la Syrie autour justement de cette idée d'arrêter des attentats qui ont lieu sur le sol français, pas uniquement dans le contexte de l'affaire de Georges Ibrahim Abdallah, mais dans un contexte plus global de revendication, de libération de certains prisonniers, qualifiés de prisonniers politiques déjà, et notamment de Georges Ibrahim Abdallah. Donc on a ces enchevêtrements entre une réalité judiciaire qui se passe ici dans la salle Voltaire, avec une cour d'assises spécialement composée de magistrats, et puis des enjeux politiques derrière, de négociations, qui arrive dans la salle par la voix de l'avocat général qui est le représentant de l'État.
La surprise a été totale. Dans un profond silence, la cour est entrée, a pris place. Le président Collomb, d'une voix monocorde, a déclaré « L'accusé est-il coupable ?» À la majorité des voix, oui. Y a-t-il des circonstances atténuantes ? C'est là que tout se jouait et tout le monde attendait « oui ». Or, M. Collomb a répondu « non ». En conséquence, Georges Ibrahim Abdallah est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Vous savez qu'il n'y a pas d'appel en cour d'assises. Abdallah refuse de signer son pourvoi en cassation. Il est donc en principe détenu à vie. À vie, cela veut dire à peu près 20 ans. Seule porte de sortie, une mesure de grâce présidentielle.
Maître Vergès range calmement ses papiers. La rage est intérieure. Refusant de participer à l'audience civile qui suit, il sort le premier de la salle.
Je pense que ce verdict, dans la mesure où il est fondé sur un dossier dont les 4 jours d'audience ont fait éclater le vide, même s'il a été pris en leur âme et conscience par ces messieurs de la magistrature, ne pourra pas manquer d'apparaître à beaucoup de militants arabes comme une déclaration de guerre.
Qu'un combattant arabe soit jugé par une cour spéciale en Occident, rien de plus normal. Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau. Mais que le criminel Yankee, bourreau de tous les déshérités de la terre, soit en plus le représentant des prétendues victimes devant vous, il y a bien de quoi alors s'abstenir de tout commentaire sur la nature de votre coup, ainsi que sur la tâche qui lui est assignée.
Ce sont les derniers mots de Georges Abdallah prononcés lors de son procès en cour d'assises de Paris, le 23 février 1987, un extrait du documentaire « Fedaïn » réalisé par le collectif Vacarme, dans lequel est raconté l'engagement pour la révolution palestinienne du cofondateur des fractions armées révolutionnaires libanaises.
Finalement, le procès lui-même n'a pas suscité chez moi une indignation sur le coup ou la nécessité d'éprouver de faire quelque chose.
Patrick Bobulesco, à l'origine du mouvement de soutien à Georges Abdallah.
Parce que dans notre logique, un militant qui tombe et qui passe en procès et qui est condamné, finalement, ça fait partie des risques de chaque militant. Je ne croyais évidemment pas du tout à la fable selon laquelle il avait un rapport avec les attentats aveugles, etc. Donc moi, je le prenais effectivement pour un combattant de la cause palestinienne, qui allait subir des années de prison.
Et pourtant, quelques années plus tard, un peu plus tard, hein, au début des années 2000, vous allez être l'un des membres initiateurs de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui était vraiment le mouvement initial de soutien à Georges Abdallah et qui est aujourd'hui encore très actif.
Oui, sa peine de sûreté se termine en 1999, donc formellement à partir de 1999, il peut demander sa libération conditionnelle. Notre attention est peut-être attirée en 2003 quand sa première demande de libération conditionnelle est effectivement acceptée favorablement par la juridiction régionale de Pau. Maintenant, les choses ont beaucoup changé parce que tout remonte à Paris. Le procureur va faire appel et donc, finalement, cette libération conditionnelle va être annulée. Et nous, en 2004, nous sommes effectivement alertés, disons, par des camarades qui sont en Belgique, dont certains sont libanais, donc suivent l'affaire depuis plus longtemps, qui nous disent vous êtes en France, vous avez Georges Abdallah qui est prisonnier chez vous, qui a subi cette peine, il faudrait peut-être faire quelque chose pour essayer de faire connaître son cas. Et donc, en 2004, va être fondé donc le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
Je vais commencer par vous lire la déclaration de notre camarade Georges Abdallah. Chers camarades, chers amis, par ce temps de crise, de guerre et de grande lutte, vous savoir mobiliser aujourd'hui comme tous les ans à célébrer dans la rue la journée internationale du prisonnier révolutionnaire me remplit de force. Me réchauffe le cœur aussi. Peut-être serait-il temps d'affirmer que la célébration de la journée internationale du prisonnier révolutionnaire est dorénavant destinée, avant toute autre chose, à interpeller et encourager les forces vives de la révolution et ses avant-gardes combattantes, afin qu'elles mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'expression pratique de la ferme détermination d'arracher nos camarades aux griffes de leurs criminels geôliers. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur des fleurs et lionceaux palestiniens. Votre camarade Georges Abdallah.
À cette époque-là, le collectif pour la libération de Georges Abdallah va pendant plusieurs années, d'abord très modestement, ensuite en élargissant son action, essayer à la fois de faire connaître le cas de Georges Abdallah, dont le nom est même a été complètement oublié depuis sa condamnation et depuis les attentats, et également de mobiliser, alors en utilisant toutes sortes de formes militantes mais légales évidemment, donc des pétitions, des manifestations, des stands, des...
Et ça dans le but aussi d'informer, certes, mais également de demander sa libération.
Oui, la revendication principale, c'est de demander sa libération. Finalement, ce qui a été reproché parfois noir sur blanc à Georges Abdallah pour refuser sa libération conditionnelle, c'est de dire mais il n'a pas renié ses idées, ce qui pose un problème juridique évidemment, parce que en principe, un condamné qui a effectué sa peine, la société l'a condamné, et une fois qu'il a effectué sa peine, normalement, il est plus redevable à la société. Mais si on met effectivement en avant cette question de dangerosité, et donc si on demande qu'il renie ses idées, c'est comme si on voulait l'annihiler, quoi.
Je suis là parce que nos aînés ont défendu Georges Abdallah. on connaît l'histoire, on sait comment ça se passe. Voilà, moi, en tant que femme maghrébine, je sais que nos voix ne sont pas entendues, en fait. Et être militant pro-palestinien, c'est constamment avoir ces étiquettes-là collées de contre le pouvoir, bah, les étiquettes qui sont collées à Georges Abdallah. Et moi, je suis encore au lycée, mais des fois, j'entends des choses. Enfin, j'ai envie de me dire qu'il y a énormément de richesses aussi dans le monde arabe, en Palestine. Et là, je vous parle voilà, plus largement des pays du monde arabe. Mais que, voilà, Georges Abdallah, c'est un gros, gros symbole de résistance. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour militer à ses côtés. On se dit qu'on a besoin de résistants comme lui, qui sont fidèles à leur cause et qui ne laissent pas tomber, en fait, les autres personnes.
Qu'est-ce que vous faites dans cette manifestation? Je remarque que vous ne parlez pas français.
My name is Mohammed. I am a Palestinian refugee. Was born in Lebanon. My family was deported from Palestine in 19.
Je m'appelle Mohammed. Je suis réfugié palestinien. Je suis né au Liban et ma famille a été déportée de Palestine en 1948, ce que nous appelons la Nakba, la catastrophe. Je suis un réfugié politique comme des milliers de réfugiés palestiniens de la diaspora. Je vis en Europe. Je suis présent ici pour manifester contre l'État français qui a arrêté Georges Ibrahim Abdallah.
For us as Palestinians, we see Georges Ibrahim Abdallah who is arrested for more than 38 years in Larmizan.
Pour nous, Palestiniens, Georges Ibrahim Abdallah, qui a été détenu plus de 38 ans à Lannemezan, en France, représente un leader palestinien, même si c'est un Libanais, communiste et internationaliste. C'est un symbole et nous le voyons aussi comme le chef de file de notre lutte pour la libération des prisonniers palestiniens. C'est une icône, non seulement pour le peuple palestinien, mais plus largement pour tous ceux qui luttent pour la justice, l'égalité et la libération.
Après avoir rencontré les soutiens en France de Georges Abdallah, intimement lié au peuple palestinien, il me fallait en savoir plus sur ce qu'il incarne au Liban, son pays d'origine. J'ai donc contacté Nicolas Dopouillard, chercheur en sciences politiques installé depuis 15 ans au Liban, spécialiste de l'histoire du mouvement national palestinien et de la gauche libanaise. Notre conversation, à distance, pâtit des difficultés de connexion, une parmi tant d'autres que traverse actuellement le pays du Cèdre.
En disant ici au Liban, il y a des mobilisations très régulières pour Georges Ibrahim Abdallah, c'est-à-dire, c'est pas tous les mois, mais c'est chaque année, à certaines dates centrales, il y a des manifestations devant l'ambassade de France, devant la résidence de l'ambassadeur, qui à certaines époques, même dans les années 2010, jusqu'à très récemment, peuvent regrouper plusieurs centaines de personnes. Ce ne sont pas des petites manifestations, ce ne sont pas des petits rassemblements, donc on voit qu'il y a quand même un vrai milieu de soutien avec lui. Ce sont des manifestations qui sont majoritairement organisées par ce qu'on pourrait appeler ce qui reste de la gauche libanaise, c'est-à-dire majoritairement le Parti communiste libanais qui est très très investi sur cette question, même si Georges Ibrahim Abdallah lui-même n'a jamais été membre du Parti communiste libanais, voilà, mais c'est un peu, on va dire, un de ces symboles de la gauche libanaise, mais dans un sens qui est très précis. Dans les années, fin des années 60, 1970, jusque dans les années 80, il y a énormément de jeunes progressistes libanais qui se sont engagés dans les rangs du mouvement national palestinien. Il y avait une véritable symbiose, il n'y avait pas d'un côté les Palestiniens et d'un côté les Libanais. Et Georges Ibrahim Abdallah, il appartient à cette histoire qui est tout à fait particulière, qui est vraiment le fruit de l'internationalisme d'une époque qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui et qui nous apparaît très loin, puisque c'est son histoire. C'est un jeune d'un village du nord Liban qui a été sensibilisé très tôt à la problématique sociale libanaise et à la misère des Libanais eux-mêmes, mais aussi à la misère des Palestiniens, et qui a commencé aussi après à militer, hein, notamment dans les rangs du Front populaire pour la libération de la Palestine. Voilà, il symbolise un peu cette génération libanaise qui s'est profondément engagée avec les Palestiniens, mais qui, en s'engageant avec les Palestiniens, cherchait aussi à changer la situation, hein, au Liban.
Est-ce que Georges Abdallah est attendu au Liban aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un espoir, un véritable espoir qu'il revienne?
Il y a eu un espoir dans les années 2010 et aujourd'hui il y a un désespoir, parce que c'est-à-dire les gens n'y croient plus. Alors ils se battent toujours, mais il y a eu tellement de phases où on a annoncé sa libération. Lorsqu'il y a eu l'épisode, hein, où la justice avait dit qu'il était libérable, où il devait être libéré, mais où finalement il n'y a jamais eu l'ordre du ministère de l'Intérieur pour l'arrêté d'expulsion pour l'envoyer au Liban. Il y avait une atmosphère dans le pays, moi je me souviens, j'étais là à cette époque, il y avait une atmosphère dans le pays un peu fébrile, c'est-à-dire les gens pensaient vraiment qu'il allait revenir. Et puis ça a été une déception très soudaine, et depuis cette époque il y a eu un peu de découragement, Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que c'est porté par la présidence de la République, par Michel Aoun, c'est porté par les organismes sécuritaires libanais, notamment par la figure de Abbas Ibrahim, qui est le directeur de la Sûreté Générale. Ça a été porté par l'ancienne ministre de la Justice, Marie-Claude Najem. Le message des autorités libanaises ne cherche pas à être un message politique, c'est un message de dire c'est une histoire qui est terminée, c'est une question humanitaire, il faut qu'il revienne, qu'il voit sa famille, et c'est tout. C'est une des seules avancées qu'il y a eu sur ce dossier, ici au Liban en tout cas, depuis les dernières années.
Mesdames, Messieurs, il est 16h35. D'ici quelques minutes, nous arriverons en gare de Toulouse, Matabiau, notre terminus, avec un retard de 20 minutes suite à la régulation du trafic. Lannemezan, départ 17h31. Mesdames, Messieurs, pour de plus amples informations, je vous invite à vous présenter au niveau des agents SNCF présents en gare de Toulouse, Matabiau, pour les correspondances.
Pour se rendre au centre pénitentiaire de Lannemezan, à 126 km de Toulouse, il faut prendre un autre train à Toulouse pendant environ 1h20. Arrivé en gare de Lannemezan, il faut ensuite marcher 15 minutes depuis la gare de cette petite ville de 6000 habitants. C'est le chemin qu'empruntent chaque année le millier de personnes qui viennent manifester en soutien à Georges Abdallah devant la prison. Au second plan, les montagnes pyrénéennes composent le paysage. Et au premier plan, à mesure que l'on avance, quatre miradors se détachent dans le ciel. Le silence se fait de plus en plus pesant à mesure que l'on approche du plus vieux centre pénitentiaire de France, ouvert le 1er octobre 1987. En longeant les longues grilles vertes qui s'élèvent vers le ciel, on peut entrevoir des autocollants de soutien à Georges Abdallah, collés entre deux poteaux. Vieillis par le temps, ils racontent à eux seuls la durée de la peine. Devant la prison, il est interdit d'avoir un micro, alors je dois l'éteindre. Je passerai finalement 3 heures au parloir avec Georges Abdallah. La photographie bien connue du détenu est celle d'un homme à la barbe brune et au regard foncé. C'est un homme à la barbe blanche que je rencontre, le regard clair, presque bleu. Les nombreuses personnes qui le visitent ne m'avaient pas menti. Georges est d'une érudition déroutante, il dépeint le monde avec acuité, lisant la presse internationale quotidiennement, de 5h à 10h30 du matin. Je suis déstabilisée quand, au fil de la conversation, je réalise qu'il est emprisonné depuis 6 ans avant ma naissance, en 1990. Il me glisse d'ailleurs dans un sourire triste. « Tu sais, Clémentine, je n'ai même pas vu la chute du mur. » Chaque mot est pesé, dans un français parfait, avec parfois quelques petits rappels de sa langue à lui, l'arabe libanais. Georges Abdallah me raconte son quotidien en prison et les traces qu'une si longue détention laisse sur le corps. « En prison, me dit-il, on oublie même comment ouvrir et fermer une porte. Toute autonomie de l'individu est effacée. » Au fil de la conversation, la porte du parloir entrouverte, nous sommes seuls, il se confie sur sa plus grande douleur, la perte des proches quand lui est toujours là. Car sa famille, ce sont ces centaines de personnes qui viennent le visiter chaque année. Il est en effet le détenu français qui reçoit le plus de visites, et sûrement de lettres. Dans la conversation, Georges Abdallah cite souvent un poète, un intellectuel, une philosophe, pour appuyer ses propos sur les luttes de l'humanité, une analyse de la géopolitique mondiale ou l'état des prisons. Il écrit beaucoup, mais pas pour lui, toujours pour les camarades, me dit-il, qui portent la lutte révolutionnaire. Le temps, il ne le voit pas passer. C'est juste en voyant son visage au détour d'un miroir, se creuser, qu'il prend conscience que bientôt, il entamera une 40e année entre 4 murs. À 17h30 pile, les gardiens sifflent une petite musique. Georges Abdallah se lève, m'entoure de ses bras. Il est l'heure de retourner en cellule.
Écoutez RFI, la marche du monde. J'ai été arrêté en 87, mais je n'ai été amené en centrale de peine qu'en 94. Quelques semaines après est arrivé Georges.
Jean-Marc Rouillon, militant d'Action Directe, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, arrêté en 1987, condamné deux fois à perpétuité et transféré à la centrale de Lannemezan en 1994, quelques semaines avant l'arrivée de Georges Abdallah.
On a passé 6 ans au même étage, quotidiennement ensemble, dans des cellules séparées, puisqu'on était des dangereux, et que dans les centrales de sécurité, généralement, les cellules sont individuelles. Mais j'étais particulièrement heureux parce que c'est quelqu'un de très politisé, qui a une ouverture à l'Europe. C'est pas seulement quelqu'un qui pense à la Palestine et seulement à la Palestine. Il a une compréhension du monde, il a une compréhension de la lutte communiste, il a une compréhension de tous les efforts des révolutionnaires partout dans le monde. C'est une chance extraordinaire quand on est un prisonnier qui sort de l'isolement d'avoir quotidiennement la possibilité de parler avec quelqu'un comme Georges Abdallah. Donc une vie quotidienne que je raconte dans mon livre Infinitif Présent où je lui faisais la cuisine parce que ça il est pas très fort. Il est très fort en plein de choses mais pas pour la cuisine. Comme il dit, ne rentre plus en prison, mais je regrette ta cuisine chaque fois. Voilà.
Quelles images, quels souvenirs vous reste-t-il de ce temps partagé avec Georges Ibrahim Abdallah? Des souvenirs, des sons aussi?
Dans ma vie quotidienne, je rencontre parfois un bruit de prison et je reste glacé parce que c'est... Je pense à la cellule de Georges, il n'a pas changé de cellule, elle a été un peu repeinte, il n'a plus le grand tissu que lui avaient monté les prisonniers. Ils avaient trouvé un immense drapeau avec la tête de Che Guevara, dont ils étaient venus lui apporter et pour couvrir la décrépitude des murs de sa cellule. Les journaux entassés partout qu'il posait le matin sur le lit et le soir reposait par terre. Des piles de journaux du monde entier, parce qu'il lit plusieurs langues. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se lève très tôt, qui écoute la BBC en arabe. La prison pèse, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est tellement solide dans ses convictions que, voilà, il reste debout après 38 ans, quoi.
Et ça peut passer, en tout cas, c'est aussi passé pour vous, par l'écriture, par le recours à l'écriture. Mandela disait « Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. »
Mais pour moi, la littérature est une arme, et un homme armé est déjà beaucoup plus fort. Ce que disait Jean Genet à propos de George Jackson, ce que disait Malcolm X de son passage en prison. Il a dit « Je suis rentré un petit voyou, je suis sorti un leader révolutionnaire ». C'est ça la prison, ça peut être ça, ou ça peut être exactement le contraire. Ça peut briser des gens, ça peut les tuer aussi, voilà.
Dans votre livre « Infinitif présent », vous décrivez George Ibrahim Abdallah, vous l'appelez le Chibani.
Parce que... Les jeunes issus de l'immigration, dans les bâtiments, au bout d'un moment, ils ont commencé à l'appeler le Chibani, le vieux, parce qu'il était devenu vieux, comme moi, je suis devenu vieux. Et donc, ça avait un terme d'immense respect, de proximité. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur le vieux. S'il y avait un mouvement, le vieux, il descendrait, comme tous les prisonniers politiques descendent dans les cours de promenade quand il y a un mouvement. C'est la personne qui pesait sur la communauté des immigrés, qui avait essayé de leur apprendre l'arabe littéraire, qui a fait beaucoup d'activités avec eux, de discussions dans sa cellule quand ils ont des problèmes familiaux avec les enfants et tout ça. Il prend le temps de conseiller, d'aider et de lutter aussi. Comme on dit, un prisonnier politique, ils n'ont pas besoin de poser 1000 fois la question « Vous serez dans cette lutte ou vous ne serez pas, on y est ».
Alors vous aviez tous les deux 30 ans dans les années 80, vous Jean-Marc Rouillon et Georges Ibrahim Abdallah, vous avez un an d'écart je crois. Vous avez eu tous les deux recours à la lutte armée. On peut dire que c'était aussi une question générationnelle à ce moment-là, la question de se saisir des armes pour lutter contre, vous allez nous dire contre quoi?
Mais bien sûr que l'option de la lutte armée s'est présentée à la fin des années 60, C'est un héritage du mouvement des libérations nationales au Sud, une compréhension qu'on ne pouvait pas changer les choses en distribuant des tracts. Il y avait une compréhension du monde qui s'est construite par les massacres coloniaux, par les luttes ouvrières, les coups d'État militaires.
Et la question palestinienne, c'était centrale ?
Ah oui, la cause palestinienne était centrale. Cette résistance passe au rouleau compresseur occidental qui a amené ce gendarme dans la région, qui l'a développé jusqu'au pire massacre. Effectivement, ça, sur notre génération, ça a eu un effet considérable. Et la solidarité avec les Palestiniens était centrale à toute activité.
Comment ça se passe quand vous quittez la prison de Lannemezan ? Quel échange vous avez la veille de votre départ ou quelques jours avant ?
Il est venu frapper à ma porte dès qu'il a vu sur une télé du rez-de-chaussée, une télé collective, que la cour d'appel avait annoncé que j'allais sortir. Mais on s'écrit au début, je lui ai envoyé des livres quand je travaillais dans une maison d'édition, et j'essaye de persuader les gens de parce que ça n'a pas été facile au début, quoi. Parce que justement, on associait Georges Abdallah à des attentats massacres, alors que c'est un montage tout à fait sordide qu'a fait l'État sur la liaison entre les attentats comme la rue de Rennes et Georges Abdallah. Donc il a fallu démonter ça progressivement et dire, voyez, c'est pas du tout ça, quoi. Ou quand on le présentait comme un islamiste, on disait, mais non, c'est un communiste révolutionnaire, c'est quelqu'un de très progressiste, il faut arrêter avec tout ça parce que c'est quelqu'un qui a passé 38 ans de sa vie en prison. L'effort, il a fait sa peine. Il pensait pas qu'il allait rester plus longtemps que moi. Parce que la logique judiciaire, c'était que moi, je devais rester plus longtemps que lui. Et là, c'est plus une affaire de juge. Les juges étaient pour sa libération. Et il a fallu que Valls intervienne pour empêcher cette libération. Donc il n'y a plus rien de judiciaire dans l'affaire Abdallah. C'est qu'une lutte politique.
L'affaire Abdallah est-elle une question devenue essentiellement politique, sachant qu'en 2013, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, refuse de signer son extradition vers le Liban. Clémentine Métainier a posé la question au spécialiste de la justice antiterroriste, Antoine Mézy.
Est-ce que Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique ?
Ce terme est utilisé par les soutiens de Georges Ibrahim Abdallah. Ce terme était utilisé par de nombreux avocats déjà.
Il a disparu
parce que dans la loi, on ne veut plus avoir de prisonniers politiques. Et donc, dans les années 81, avec justement cette abrogation de la peine de mort, mais aussi cette fin des crimes politiques, on considère que plus personne en France n'est un prisonnier politique. Et cette revendication-là, elle a été au cœur de toute une période extrêmement intéressante aussi et qu'on se doit encore d'aller d'étudier. C'est cette période aussi où, en France, on a des procès dans cette salle Voltaire. Et la revendication de ces accusés était d'être des prisonniers politiques. Oui, il n'y a plus de prisonniers politiques en France d'un point de vue légal, mais il est bien évidemment évident que la justice et son interaction avec le politique reste prédominante dans les traitements de ce qu'on va appeler le terrorisme. Mais cette qualification de terroriste, elle est là aussi extrêmement fluide. Et la prise de parole aujourd'hui des magistrats, des policiers, des avocats qui étaient aux affaires à cette époque, qui considèrent qu'aujourd'hui finalement ce dossier Georges Ibrahim Abdallah est dépassé. Donc c'est le cas par exemple de Yves Bonnet, qui est l'ancien directeur à la DST, qui était la direction de la surveillance du territoire, et qui est à l'origine même de l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah, et qui en 2016 donc considère que ce dernier a largement purgé sa peine, et tend à comprendre les revendications politiques, en considérant que ça fait partie d'une histoire aussi des négociations. On a les mémoires de Georges Kegeman, qui, là aussi, lui aussi, en ayant été l'avocat de l'État des États-Unis, considère que, finalement, maintenant, l'histoire est passée.
Il serait serait temps.
Il serait temps qu'il soit libéré. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux actes terroristes d'aujourd'hui, on va considérer que ce qui a été fait auparavant pouvait se comprendre. Alors, pour avoir fait un entretien avec le juge Alain Marceau, et qui en parle aussi beaucoup de cette affaire, qui reconnaît publiquement. Alors, bon, aujourd'hui, on est passé à autre chose. Qui considérait déjà dans les années 90 que les affaires d'action directe, on était passé à autre chose avec d'autres terrorismes plus dangereux, qu'aujourd'hui il considère aussi que l'affaire de Georges Ibrahim Abdallah, finalement c'est une affaire qui, pour des raisons uniquement de posture politique et partisane, devrait être dépassée. Donc oui, c'est devenu en fait aujourd'hui le symbole du prisonnier politique, alors même qu'on cherchait à dépolitiser cette affaire. Donc c'est tout le paradoxe.
Zut, en plus j'ai batterie faible, manquez plus que ça, donc je vais...
Ah mince, ok.
Ça va ?
Ouais, c'est parfait.
Alain Marceau, l'ex-magistrat au sein de la section criminelle du tribunal de Paris, ancien chef du service central de lutte antiterroriste dans les années 80. C'est lui qui a notamment mené les premiers interrogatoires de Georges Abdallah à la prison de la Santé à Paris. En 2002, dans son autobiographie « Avant de tout oublier », Alain Marceau écrit « Après l'énoncé du verdict du procès de Georges Abdallah en 1987, il fallait gérer la condamnation à perpétuité pour qu'aucune polémique n'éclatât. Mais il est désormais évident qu'Abdallah fut en partie condamné pour ce qu'il n'avait pas fait, car peu de temps après, nous allions partir sur une bonne piste et identifier les véritables responsables des attentats de 1986. » Joint par téléphone, il m'a confirmé ses propos.
Quand je dis il a été condamné plus sévèrement qu'il ne méritait, non, parce qu'en réalité, il avait quand même assassiné ou participé à l'assassinat de plusieurs diplomates. Mais il a été victime de la conjoncture, à savoir, on est en pleine période d'attentats dans Paris, les bombes sautaient presque tous les jours, le pouvoir politique était quand même assez désemparé, pour ne pas dire même parfois désespéré, et ce contexte fait que la justice a peut-être été plus sévère qu'elle ne l'aurait été dans un autre contexte, où elle aurait reconnu, certes, assassinat, mais assassinat dans un contexte politique.
Georges Abdallah a purgé sa peine. Il a été condamné plus sévèrement qu'il ne méritait. Il me dit également qu'il a été victime de la conjoncture en pleine période d'attentats dans Paris. Et pour mettre fin à notre discussion, il me dira « Il faudra bien qu'elle prenne fin, cette peine, puisque la réclusion à perpétuité en France n'existe pas, et alors on ne va pas la recréer spécialement pour Georges Abdallah. »
Et alors, il ne peut pas oublier qu'il avait un profil particulier. Il était un chrétien. La famille était une famille chrétienne, d'un village chrétien du Liban. Alors, ça a une petite signification, si vous voulez. Il n'appartenait pas au monde musulman qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans d'autres opérations de terrorisme à Paris ou en France. Il faudrait bien qu'elle prenne fin, cette peine, puisque, de toute façon, la réclusion à perpétuité en France n'existe pas. On ne va pas la recréer spécialement pour lui.
« 14 octobre 2022. Cher Georges, en minuscule patte de mouche, à la fin de ta lettre, tu m'as écrit. PS, laissons le vouvoiement aux ombres. L'injustice de ta détention est mise en lumière par des centaines de personnes partout dans le monde. Moi, je choisis la mise en onde pour faire entendre et comprendre tout ce qui se joue autour de ta personne. Et le combat pourrait être encore long. Ce que j'emporte avec moi de notre rencontre, ce sont tes mots, porteurs d'espoir. La lutte, c'est d'abord la joie, m'as-tu glissé dans un sourire radieux. La révolution, c'est de rêver et de faire rêver. Il faut vivre pleinement dehors, se nourrir des choses de la vie, du quotidien, les fleurs, la famille, le partage. C'est le plus important. Merci, Georges Abdallah, pour tes paroles.
Georges Ibrahim Abdallah, une perpétuité politique. C'était un documentaire de Clémentine Métainier, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin avec la Sonothèque de RFI.
تطير نار بعينك حب الأحياء
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était René Gorge, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.